Bien, écoutez, nous allons donc prendre le... Je sais pas, est-ce que vous arrivez à l'entendre là-bas? C'est ça? Oui. Peut-être on tourne un peu. Hein? Non, non, je vais tourner la table comme ça. Tout le monde a un livre? Oui? Tout le monde a des livres? Vous avez des livres? Oui. Bien, vous prendrez donc le texte au début de la paracha et nous allons essayer d'étudier au moins deux thèmes. D'abord le premier thème qui est relié à la mort de Sarah et qui est celui de l'achat de la caverne de Marpella par Abraham. Alors, le texte commence au chapitre 23 et je vais prendre le texte. Au chapitre 23, à partir du verset 3. Et nous aurons donc à nous poser un certain nombre de questions sur la manière dont ce récit nous est donné et ce que cela implique. Alors, à partir du verset 3, dans les deux versets précédents, la Torah revient sur l'événement de la mort de Sarah, qui est relié d'ailleurs au sacrifice d'Isaac, enfin, au sacrifice d'Isaac entre guillemets, puisque, comme vous le savez, le sacrifice n'a pas eu lieu. Et il me semble que la semaine dernière, nous avons un peu parlé de cela, en particulier une définition de cette épreuve d'Abraham. Et encore une fois, qu'on appelle en français, mais à tort, le sacrifice d'Isaac, relié à la mise en doute de, je ne dirais pas la mise en doute, mais à la difficulté d'arriver à croire qu'il a un mérite suffisant pour que la promesse que Dieu lui fait, que cette terre lui appartiendra à sa descendance, se réalise. Rappelez effectivement que Abraham avait contracté une alliance avec Abimélec, d'après le récit, est le roi de ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire de Gaza, et qui s'appelait à l'époque le Eretz Pelishtim. C'était une colonie d'une peuplade qui avait envahi le pays de Canaan. Les Pelishtim, ces Cananéens en particulier, n'étaient pas des Sémites, et il y a plusieurs traditions à ce sujet, mais en tous les cas, ils avaient installé sur toute la côte, dans la partie sud du pays d'Israël et en relation avec la partie de l'Égypte, la partie nord de l'Égypte, ils avaient installé toute une série de comptoirs et cette partie du pays s'appelait Eretz Pelishtim. Plus tard, on retrouvera la ville de Gaza, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelait Gaza au temps des rois d'Israël. Alors, précédemment, la Torah nous raconte qu'Abraham a contracté une alliance avec Abimelech, qui était le roi de Eretz Pelishtim. Le roi de Eretz Pelishtim, s'adressant à Abraham, vous retrouverez les sources dans le texte, parle de ce pays comme étant son pays, et on s'aperçoit qu'Abraham contracte quand même une alliance avec lui. Vous comprenez la contradiction qu'il peut y avoir entre le fait qu'Abraham reçoit une promesse particulière concernant Eretz Israël, et le fait de traiter une alliance avec Abimélec, roi du pays, qui prétend qu'il s'agit de son propre pays, comme s'il y avait un consentement. Alors immédiatement après, il y a mise à l'épreuve d'Abraham en ce qui concerne Isaac. Les deux promesses étant liées, cet enfant qui lui est promis doit être le principe de fécondité d'une descendance à qui est donnée en promesse l'appartenance du pays de Canaan, qui deviendra le pays d'Israël, qui était primitivement le pays des Hébreux. Tout cela, nous l'avons étudié au livre de l'histoire d'Abraham. Et puisqu'il semble qu'il y avoir un doute sur la relation à ce pays, alors Dieu réclame l'enfant qu'il avait donné. C'est une approche des causes immédiates et profondes de la mise à l'épreuve d'Abraham en relation avec Yitzhak, qui est peu connue, mais que nous avons étudiée donc la semaine dernière. Je pense que c'est bien clair. Et nous voyons qu'ici, il y a un rebondissement du sujet. Et là, nous avons un texte à propos de la mort de Sarah, la nécessité de l'enterrer dans le pays où elle est morte, et il s'agissait de Hebron, nous avons un texte, nous voyons qu'au contraire, Abraham va commencer à affirmer ses droits sur le pays, et assez paradoxalement, par l'achat de la sépulture de Sarah. Donc on nous a appris que Sarah est morte, d'après le Midrash, c'est au moment du sacrifice d'Isaac qu'elle est morte, encore une fois, sacrifice d'Isaac entre guillemets, il s'agissait d'une épreuve d'Abraham au sujet de Yitzhak. Et je ne reviens pas sur le sujet. Et voilà qu'Abraham a un problème à résoudre. un problème à résoudre qui nous semblerait un problème banal, facile à résoudre. A priori, on ne verrait pas la difficulté du problème. Et voilà que cependant, il semble que ce soit un problème très important. Trouver un emplacement comme tombe pour Sarah, un caveau pour enterrer Sarah. Alors nous allons étudier ce premier thème immédiatement. Si nous reste du temps aujourd'hui, j'espère, on abordera le thème suivant qui est celui de la nouvelle difficulté, de la nouvelle épreuve qui va concerner Abraham par rapport cette fois au mariage d'Isaac. Comment trouver une femme pour Isaac? Alors premièrement, comment trouver un tombeau pour Sarah? Et encore une fois, assez paradoxalement, c'est par là que commencera la préoccupation d'Abraham et par la suite de sa descendance jusqu'à nous, le problème n'est pas encore résolu, d'affirmer les droits d'Israël sur ce pays donné au patriarche. Ça commence par l'achat de ce morceau de terre qui est connu depuis sous le nom de la caverne de Marpella et à Hébron, où sont d'ailleurs, comme vous le savez évidemment, enterrés depuis les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et il n'y a pas seulement cette caverne, mais le champ qui entourait la caverne et dont on va nous parler. Nous allons lire le texte très rapidement et j'aborderai un ou deux points de difficulté du texte à travers lesquels nous essaierons de comprendre mieux ce problème. Pourquoi il y a une difficulté pour Abraham de trouver un morceau de terrain pour enterrer Sarah. Alors prenez le texte à partir du verset 3. « Vayakom Abraham me'al penemetu. » Et Abraham se leva de devant, littéralement de devant son mort. « Me'al penemetu. » Vayaver el benechet les morts. C'est-à-dire d'abord il est assis auprès de Sarah pour la pleurer. Et puis verset 3, il se lève pour se préoccuper de l'enterrer. Et il s'adresse aux enfants de Chet, aux Chittites, et on apprend donc que la peuplade qui occupait le territoire de Hébron à l'époque était des descendants des Chittites. Enfin, était participé du peuple des Chittéens, peut-être dans certaines traductions, on a l'habitude quand même de dire les Chittites, les Benéchet. Verset 4. Ger vetosha avanochi imachem. Là, il y a une expression extrêmement importante qui a été étudiée par les commentateurs et citée par les. Je ne sais pas comment vous dire, les théologiens, c'est peut-être pas le mot. En tout cas, en particulier, je pense à une pièce de vers de Judas Lévi que l'on récite comme une des slichot des Yamim Noraim à Rosh Hashanah et Kippour, et qui reprend cette expression « Ger vetosha vanochi imachem ». Abraham s'adresse au Benechet, donc à ceux qui étaient censés posséder le pays. Nous apprenons qu'ils sont des conquérants du pays, ils appartiennent aux Cananéens, mais ils sont là, avec les droits de l'occupant, si j'ose dire, et il s'adresse à eux pour leur demander la possibilité d'enterrer Sarah en commençant par s'identifier. Et il dit « Ger vetoshav anochi imachem ». Nous allons étudier ces deux mots-là, parce que c'est là que nous avons la clé de tout notre problème. Pourquoi c'était si difficile à Abraham d'avoir une tombe pour Sarah? Et je vais prendre ici l'enseignement du célèbre commentateur du Moyen-Âge, Abraham Ibn Ezra, que vous avez dans le micro de Gudolok. Je vais me baser sur une remarque qui nous donne la clé du problème. Alors, quelle est la différence entre Ger et Toshav? Et je vais simplement expliquer ces termes uniquement en relation avec notre sujet. Chacun de ces termes demanderait un développement extrêmement grand. Ger, ça veut dire étranger. Le statut de l'étranger, c'est quelqu'un qui habite un pays mais qui ne fait pas partie de la nation de ce pays. Ça s'appelle guerre. Vous savez que c'est le terme que l'on emploie par la suite dans l'hébreu rabbinique et jusque dans l'hébreu moderne pour dire un converti à Israël, un guerre. Mais c'est un autre sens. Non, c'est pas un autre sens, c'est le même sens. C'est quand même peut-être prendre un peu de temps pour ne pas les choses en suspens, mais malgré tout, c'est toujours un sens impliqué, dérivé. D'abord, guerre se rattache à la racine maintenant, qui signifie séjourner quelque part pour une forme. C'est-à-dire séjourner quelque part, en tant qu'il est évident qu'on est en voyage, qu'on est en pérégrination, comme disent les traducteurs. C'est bien clair? Donc, guerre, c'est un, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une personne déplacée à la limite. Hein. Guerre, c'est quelqu'un qui n'est pas chez lui, et qui séjourne quelque part provisoirement, ça veut dire, a priori, pas avec l'intention de rester définitivement. C'est clair? Alors que Tosha, et après je reviens sur le mot guerre, qui signifie converti, Tosha, c'est au contraire un résident, pas un résident temporaire. Le résident temporaire, ça c'est le guet. Toshav, c'est le résident qui est chez lui, la chevet, être installé quelque part. Vayeshev Yaakov, Beretz, Megure, Aviv. Vous voyez, ceux qui sont un peu plus avancés en hébreu, l'opposition des termes qu'il y a dans ce verset, va Yeshev, Toshav, Yaakov, Beret, Megouré, Aviv, Beret, Echel, Megouré, Aviv, 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 Hayage, Rehu, Hayat, Toshav. Et voici maintenant. Bon, je referme la parenthèse. Et il y a une contradiction de statut, c'est un statut bizarre, à la fois Guerre et Toshav. Okay? D'une certaine manière, l'identité d'Abraham, c'est d'être Toshav, il est chez lui, dans le pays où il se trouve, et là où le récit est situé. Mais d'un autre côté, il s'adresse aux Benechet, qui sont censés être les occupants du pays à l'époque, pour dire Guerre. Je reprends l'expression Guerre et Toshav Anochi, Imachem, avec vous. En ce qui concerne votre point de vue sur mon statut, je suis Guerre et Toshav. Il n'y a pas écrit, je suis à vos yeux Guerre et Toshav, mais avec vous, par rapport à vous, je suis Guerre et Toshav. À la fois Guerre et la fois Toshav. Le raisonnement de Ben Ezra va être le suivant. En tant que Guerre, je n'ai pas droit à un caveau chez vous, puisque je suis Guerre, étranger. Les caveaux, et ça se rattache donc à la coutume de l'époque, mais derrière cette coutume, il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est que chaque famille avait son caveau pour enterrer les morts de la famille. Et que d'autre part, il y avait ce qu'on pouvait appeler une fosse publique ou un cimetière public où on enterrait les étrangers. Alors, va se poser un problème d'identité, très paradoxalement, par rapport à l'événement de la mort de Sarah. C'est là que se dévoile une difficulté dans l'identité d'Abraham en relation avec l'enterrement de Sarah. Et voilà comment explique Ben Ezra. En tant que je suis gay, je n'ai pas droit à un caveau. Et par conséquent, il faudrait que je sois mené à enterrer Sarah dans le Sadé, dans le champ qui entoure la caverne de Marbella, okay, nous allons voir pourquoi ce champ en particulier, cette caverne en particulier. Mais en tant que je suis Toshav, j'ai droit à un caveau, mais je n'en ai pas, puisque je viens d'arriver. Alors, de deux choses l'une, ou vous me considérez comme Toshav, vous me donnerez le caveau auquel j'ai droit, ou vous me considérez comme guerre, et si vous me considérez comme guerre, à ce moment-là, la difficulté est que je n'aurai pas de caveau. Et donc, parler à celui qui possède le caveau qui concerne les guéris, et qui s'appelle Ephron Ben Sohar, ça se découvre ici, j'arriverai à l'identité du gardien du cimetière tout à l'heure. Mais d'une certaine manière, Abraham est dans une impasse d'identité. Et d'une certaine manière, ça, ça se dévoile par rapport au Benechet. Je veux dire qu'Abraham est obligé de tenir compte, je continue l'explication de Ben Ezra, du statut qu'envisageraient les Benechet qui sont les occupants du pays. Mais tout de suite, nous sommes avertis qu'il y a là un statut impossible. Qu'est-ce que ça veut dire d'être à la fois guerre et toshav? Vous avez compris le problème. Alors, si on y réfléchit, je reviendrai à l'histoire, au contexte historique, mais si on y réfléchit bien, et vous comprenez pourquoi cette expression sera reprise par les théologiens avec une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, est-ce que ce n'est pas finalement le statut du peuple juif en tant que du peuple hébreu en tant qu'il descend d'Abraham dans toute son histoire? Si on y réfléchit bien, est-ce que cette identité, être à la fois chez soi et étranger, n'a pas été de toutes les manières possibles l'identité d'Abraham dès le commencement de son histoire? Et je prendrai deux polarités de cette identité jusqu'au moment où il y aura une reconnaissance de l'identité d'Israël, bien évidemment, ce qui est espéré dans les prophéties messianiques, que enfin l'humanité, les Benechet. Vous entendez en hébreu, qu'est-ce que c'est que l'humanité dans ce problème, les Benechet? Qu'est-ce que ça dit chet en hébreu? Hein? Faux, la faute, ok? C'est pas écrit de la même manière, assuré. Mais il y a un midrash qui met en évidence la relation. Comme si l'histoire de l'humanité descend de la faute, d'une faute, bon, enfin, vous connaissez ce récit, j'y reviens pas, et que Israël se trouve chez les Benechet pour faire un certain tikkun, une certaine restauration, une réparation de l'histoire. Et constamment, nous voyons que cette identité d'Israël, à la racine depuis le temps des patriarches, va être contestée jusqu'au moment où elle sera reconnue. Et je pense que c'est suffisamment clair. Prenons par exemple l'identification du peuple d'Israël dans l'exil, dans les temps de dispersion, dans l'exil. Eh bien là, c'est extrêmement ambigu, mais c'est indéniable que les Juifs, pour parler des Hébreux dans la période de l'exil, ça s'appelle des Juifs, eh bien, les Juifs se sont crus chez eux là où ils n'étaient pas chez eux. C'est clair. Et je pense que corollairement, quand ils arrivent chez eux, dans le pays d'Israël, l'humanité entière dit qu'ils ne sont pas chez eux. Vous avez compris les deux phases du problème. C'est-à-dire, dans les deux cas, cette ambivalence, cette ambiguïté, ou cette mise en question de l'identité est indiquée dans cette expression « Gerbetoshav anochi imachim ». Je l'ai cité tout à l'heure Judas Lévi, et Judas Lévi va pousser à la limite cette identification dans l'identité de l'homme sur terre. C'est-à-dire à la fois une expérience d'être chez soi, mais une expérience de ne pas être chez soi. Une expérience, on pourrait prendre la formule comme si l'homme authentique ne peut pas éviter d'avoir simultanément cette double identification par rapport à ce monde où il vit, à la terre où il vit. Et c'est un des exemples qui nous montre une fois de plus, qui illustre une fois de plus ce principe, que l'identité juive, l'identité d'Israël dans l'histoire de l'humanité, c'est l'identité de l'homme profondément poussé au paroxysme. C'est-à-dire, c'est le peuple d'Israël qui a le privilège, d'une certaine manière, ce privilège ayant son endroit et son envers, ce goût-là, ce privilège de vivre les thèmes d'identité humaine poussés à la limite. Je vais aller vite en nous faire comprendre que cette situation du juif dans l'histoire, c'est au fond la situation de l'homme dans le monde, mais l'homme ne le sait pas, c'est le juif qui le sait, comme si, d'une certaine manière, son histoire particulière l'oblige à prendre conscience de cela. Au fond, c'est Abraham qui dit par rapport à la terre d'Israël, « Gerbetoshav anochi imachem », je suis ici à la fois comme étranger mais comme séjournant, et vous comprenez qu'est-ce qu'il y a derrière dans le statut sociopolitique. Je crois que c'est clair, l'humanité entière, pensant à nous dans ce pays, disent « Oui, oui, on sait bien que vous êtes chez vous, seulement vous êtes étranger ». Et ça, c'est peut-être le corollaire de ce que nous avons dit pendant 2000 ans chez les autres, que nous étions chez eux alors que nous savions que nous n'étions pas chez nous. Vous avez compris le problème. Et alors, Judas Lévi aurait tendance à nous faire comprendre cela que Abraham, dans sa relation à sa terre, vit de façon paroxysmale ce qui est le statut de la relation de tout homme à la terre, au monde dans lequel il est, à la fois en exil et chez lui. Voilà l'expression qu'il y a dans chez Judas Lévi, que « Gertoshav » Ani algav adama veulamhi bebitna nahalati, ce qui signifie comme un étranger séjournant, je suis sur la surface de la terre et pourtant je sais que c'est en elle que j'ai ma destinée, mon héritage. Là, il y a une nuance dans la poésie de Judas, dans ce poème de Judas Lévi. Si je mérite, mon héritage ne sera qu'une tombe dans la terre. Si je ne mérite pas, si je mérite. Alors j'aurai mon véritable ma véritable nahala, le monde à venir. Mais vous voyez, on pourrait l'interpréter de cette manière, que l'homme a le sentiment d'être de ce monde, et pourtant il a en même temps le sentiment d'être d'ailleurs. Et cette expérience-là, finalement, que l'humanité ne pourrait exprimer qu'au niveau, à la rigueur, d'une conception philosophique ou d'une valeur poétique peut-être, d'une expression littéraire, culturel, c'est le mot que je cherchais, pour le juif, c'est son histoire existentielle. Et c'est un exemple que nous retrouvons très souvent. Beaucoup de thèmes d'identité, anthropologiquement, de l'identité humaine, sont les thèmes concrets de l'histoire des juifs. Comme si les juifs, en tant que peuple d'Israël, bien entendu, étaient voués à cela, vivre comme histoire particulière, ce qui est le statut de l'histoire universelle, et exactement comme nous entendons souvent dire, et l'enseignement que nous recevons depuis toujours, c'est qu'il y a là une exemplarité de l'histoire, une sorte de témoignage que l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'Israël. Que si on veut comprendre la destinée de l'homme en général, il faut comprendre l'histoire d'Israël, c'est un des exemples. Plus loin que ça, nous trouvons dans la Chassidout un enseignement qui se base sur un Midrash, et où on a mis cette expression « Ger vetoshav anochim » Anochi imachem, je suis un étranger séjournant imachem auprès de vous, avec vous. En corollaire à un autre verset où Dieu s'adresse à Israël et lui dit Gerim vetoshavim atem imadi. Vous êtes avec moi, c'est Dieu qui parle, vous êtes avec moi, Gerim vetoshavim, des étrangers séjournants. En général, lorsqu'on lit ce deuxième verset, c'était au contraire pour mettre l'accent sur le fait que c'est Dieu qui confirme que nous sommes chez nous. Gerim vetoshavim atem imadi. Et la Chassidoute a donné une petite nuance à ce midrash, et qui est ceci, que Dieu s'adresse à Israël pour lui dire, si vous vous considérez, vous êtes étranger séjournant avec moi, ça veut dire je partage votre sort, moi aussi, je suis comme ça, étranger séjournant. Si vous vous considérez comme chez vous dans le monde, moi je suis étranger. Et si vous vous considérez comme étranger dans le monde, moi je suis chez moi. Alors, c'est un autre niveau de la lecture de la même expression, mais vous devinez la profondeur de l'expérience qu'il y a là. Il faudrait relire tout ce qui a été donné dans les commentaires, sur les Midrashim d'abord, sur le cantique des cantiques, sur le Shir HaShirim, pour comprendre ce qu'il y a dans ce Midrash. Et il y a toute une partie de l'histoire où, semble-t-il, il y a une sorte de nécessité qui est un préalable à l'histoire vraie de cette histoire qui est que lorsque l'homme est là, Dieu se cache, lorsque Dieu se dévoile, l'homme disparaît. Jusqu'à ce que la proximité des deux, la présence des deux soit possible. Alors, ce thème est surtout étudié à travers le Cantique des Cantiques. Vous avez le contenu, même schématiquement, en tête. Lorsque lui est là et parle d'elle, elle n'est pas là. Et lorsque elle est là et parle de lui, il n'est pas là. C'est une sorte de chant d'amour, de fiançailles. Et, comment dire, de fiançailles, même plus que ça, d'un divorce avant le mariage. Des fiançailles qui seraient un divorce avant le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez, moi. Je comprends un peu, mais ça doit être. Et la tradition a appliqué cette situation à la situation de l'exil. C'est-à-dire que ici, le roi Salomon prophétise à travers le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, ce que sera le lien entre Dieu et Israël dans la situation de l'exil. Et jusqu'au moment où la rencontre est possible. Je vous le dis très, très, très rapidement pour le Shir HaShirim, en particulier à travers le commentaire du Gaon de Vilna, apparaît ce thème-là de la traduction même du titre Shir HaShirim, le chant des chants. Nous sommes surtout habitués à la signification de superlatif, le plus chant des chants. Shir HaShirim, Amer Ble Shir HaShirim, le plus chant des chants, ce qui est un sens qui est dans l'expression, mais. Et on comprend plus profondément qu'il y a deux chants différents. Le chant de Dieu à Israël, c'est la révélation de Dieu à Israël. Et le chant d'Israël à Dieu, c'est la prière. Et il y a le chant qui se chante quand ces deux chants-là sont ensemble. Il y a un chant, l'autre chant, et puis il y a le chant de ces deux chants-là. Shir HaShirim, le chant des deux chants. C'est clair ? Je vous montre au tableau, pour ceux qui lisent un peu l'hébreu, comment le Gaon de Vilna a enseigné cela. À travers quoi, il dit Le premier mot du deuxième verset, c'est « Ishakeni Mineshikot Pihu ». Pihu, c'est une forme poétique pour dire « Pihu », sa bouche à lui. Littéralement, il m'embrasse de baiser de sa bouche. Pihu. Et alors, l'expression poétique serait « Pihu ». Et le gars, le gars, il dit « Non, il n'y a pas de poésie là-dedans, c'est plus important. » Il dit « Il y a à la fois Pihu et Pihu ». Sa bouche à lui et sa bouche à elle. Vous avez compris. En fait, c'est la forme poétique de Pihu. Mais c'est pas du tout ça. C'est comme a dit le Gaon. Ça veut dire qu'il y a les deux chants à la fois. Et alors le chant qui apparaît des deux chants qui se rencontrent s'appelle le Shir HaShirim. Et le Gaon de Vilna s'était basé fondamentalement sur un enseignement de Rabbi Akiva dans la Gemara, que tous les livres de la Bible sont Kodesh, mais le Shir HaShirim est Kodesh Kodashim. Et vous voyez, le parallèle entre Kodesh Kodashim et Shir HaShirim, que tous les chants de la Bible sont saints, mais que le Shir HaShirim, c'est la sainteté des saintetés. Alors, à travers quoi le Gaon a développé ce thème ? Effectivement, dans tous les livres de la Bible, c'est ou Dieu qui s'adresse à Israël, la révélation, ou Israël qui s'adresse à Dieu, la prière, en particulier le Berit Tzadik a enseigné le parallèle qu'il y a entre les cinq livres de la loi de Moïse et les cinq livres des psaumes. Les cinq livres de la loi de Moïse, c'est la révélation de la lumière de haut en bas, mais les cinq livres des psaumes, c'est la révélation de la lumière de bas en haut. Donc c'est ou dans ce sens-là qu'est le chant de la sainteté, ou dans ce sens-là. Mais le Shir HaShirim est le cas particulier où il y a les deux. C'est la raison pour laquelle il a un niveau beaucoup plus important. Alors, je pense que on peut voir à travers ces trois niveaux de lecture, dans l'expression Girvet Oshab, que ce qui se passe ici est quelque chose de beaucoup plus important que simplement une tractation pour acheter un morceau de terre. Vous savez d'ailleurs que c'est notre problème actuellement de racheter la terre d'Israël. Le KKL l'avait fait avant la fondation de l'État, et maintenant, jusqu'à ce qu'on appelle la ligne verte, et puis maintenant, comme vous savez, nous sommes tout simplement dans le temps contemporain en train d'acheter morceau par morceau un pays qui est le nôtre. Vous comprenez à quoi je ne fais pas allusion d'ailleurs. Ben, ça a commencé avec... Ça a commencé avec Abraham, et ce qui est frappant, c'est que lorsque ça a recommencé de notre temps, ça a recommencé précisément à Hebron, là où ça s'est passé la première fois. Nous avons donc, d'après l'ordre de l'achat des terrains par nos pères, nous savons quel est l'ordre de développement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est exactement celui-là qui se passe. Et je vous garantis que les différents gouvernements qui se sont succédés, les états-majors qui ont collaboré avec eux pour décider par où on commence et par où on continue, n'ont pas étudié ça dans la Bible. Mais peut-être que leurs ancêtres l'ont étudié dans la Bible. Alors ils le savaient quand même. En tout cas, pour revenir à notre problème, et voilà la position d'Abraham. « Ger v'toshav anochi imachem, tenouli achuzat kever imachem. » Donnez-moi, tenouli, achuzat kever, un héritage de sépulture, c'est un caveau, imachem avec vous. « Vekver ametim ilefanai, et j'enterrerai mon mort de devant moi. » Simplement, j'ajoute encore une phrase à cette petite introduction qui vient à travers ce verset, c'est qu'il est frappant de voir que la première préoccupation de l'achat du terrain, c'est l'achat d'une tombe, de l'achat de la terre d'Israël. C'est l'achat d'une tombe et pas forcément l'achat d'une villa. Et c'est un peu comme ça dans la Halakha d'Aïla. Et les fils de Chet répondirent à Abraham en lui disant « Shema'enu, écoute-nous, Adoni, Seigneur, Nessi Elohim ata betochem, tu es un prince de Dieu parmi nous. » Et là, tout de suite, il faut mettre en évidence que ce n'est pas une formule de politesse vide. Je veux dire, ce n'est pas une formule de politesse formelle, comme sont en général les formules. C'est quelque chose d'important qui nous est dit là. On sait qui est Abraham. Abraham vient de Ur Kasdim et on sait qui il est. Lorsqu'il arrive dans le pays de Canaan, eh bien, on l'accueille comme Nessi Elohim, un prince de Dieu. C'est clair. Vous verrez par la suite, d'ailleurs, dans les autres récits, que lorsqu'Abraham est obligé de voyager dans la civilisation de l'Égypte, les récits précédents, d'ailleurs, dans la civilisation de l'Égypte, dans la civilisation des Philistins, il est reçu avec les honneurs dus à un roi. Donc, on sait qui est Abraham. Plus que ça, dans les autres récits, on sait qui sont les Hébreux. On avait entendu parler de ces Hébreux qui habitaient ce pays-là, au temps de Hever, une des lignées de Shem. Et, d'ailleurs, le nom de Abraham, au début, Abraham l'Hébreu, Abraham à Ivry, comme dit le texte, vient le rattache à la nation des Hébreux qui descend de Hever, un descendant de Shem, un des ancêtres d'Abraham. De tous ces Hébreux-là qui se sont perdus dans les exils de ce temps-là, dans les diasporas de ce temps-là, si on peut dire, et en particulier dans celle de la Mésopotamie, de la civilisation d'Ur Kasdim, une famille des Hébreux était revenue dans leur pays d'origine, c'était la famille de Terah, le père d'Abraham, sur l'instigation d'Abraham. D'ailleurs, c'est Abraham qui arrive dans le pays, et lorsqu'il y arrive, eh bien, on sait qui il est, et on l'accueille avec les honneurs du à son rang. Est-ce que c'est clair jusque-là? Plus tard, lorsque Jacob descendra en Égypte, le pharaon lui demandera « Est-ce que tu es de la famille de cet Abraham dont on parle encore en Égypte parce qu'il avait fait un petit voyage ?» Et le Midrash explique parce que Jacob ressemblait à Abraham, et alors les Égyptiens croyaient que c'était lui-même, Abraham, qui revenait. Donc, je reprends. « Shema'enu Adoni, Nessi Elohim Ata Betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous, Bemifhar Kevarenu, dans la meilleure de nos tombes, parce que, comme vous savez, il y a des tombes de standing différents. Hein, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, enfin, dans la meilleure de nos tombes, Kevoret Metecha, enterre ton mort, Ich Mimenu et Kivro Loichle Mimecha. Personne d'entre nous ne refusera sa tombe devant toi, de toi, mais que bon mettra d'enterrer ton mort. Et vous voyez, les honneurs qui continuent. Et comment tu as un problème de ce genre à résoudre, avoir une relation à la terre parce que il faut que tu enterres ta femme, mais dans n'importe quelle tombe d'entre nous, l'hospitalité était ouverte. Retenez bien tout cela. Abraham n'est pas d'accord. Mais Yaakov Abraham va yishtachu le'ama avec l'ibnechet. Abraham, et ça prend une dimension très grande, cette tractation. Tout le peuple est là. Et Abraham se leva et se prosterna devant le peuple de la terre, Amaharet. Vous voyez l'expression Amaharet, qui est d'abord employée pour dire le peuple qui habite cette terre, quel qu'il soit. L'Ibn Echet, les enfants de Chet. Et alors, lisons l'harmonie, un peu plus métaphysique, si vous voulez. Aret, c'est aussi la terre tout entière, la planète. On voit Abraham s'adressant aux habitants de la terre, les enfants de Chet. Vous avez entendu que ça dit Chet en hébreu tout à l'heure. Voyez la véritable les mots. Et il parla avec eux en leur disant, et miechet nafshechem, si vraiment vous voulez, ça veut dire si c'est dans votre personne, vraiment, si c'est dans votre conscience, et que vous êtes metim ilefana, et que je puisse enterrer mon mort de devant moi, Shema Oni, alors vous, écoutez-moi maintenant. Ufir Oli be Ephron ben Tsohar. Et intercédez pour moi chez Ephron, fils de Tsohar. Voilà, apparaît là un personnage, Ephron, fils de Tsohar, qu'on ne connaissait pas du tout, qui apparaît là, comme étant propriétaire, comme nous allons le voir en détail, d'un caveau particulier que Abraham veut, a priori. On va se demander, mais pourquoi Abraham tient celui-là et pas un autre? On vient de lui proposer d'enterrer Sarah n'importe où, tout le monde ouvrira son caveau devant lui. Et voilà qu'il dit non, si vraiment vous acceptez que je devienne un habitant du pays, parce que j'aurai mon cimetière là aussi, alors demandez à Ephron ben Tsohar de me céder son caveau à lui. Pourquoi celui-là et pas un autre? Vous avez compris le problème? Alors, on continue. Et qu'il me donne cette caverne double, Me'arat HaMakhpela. Donc elle était connue, la caverne double, là où on enterre les couples. La caverne double, Asher Lo, qui lui appartient, Asher Bikset Sadehu, qui se trouve à l'extrémité de son champ, Bechesef Male Itenenuli, en argent plein, il me la donnera. Ça veut dire, je veux payer, comme on dit, rubis sur l'ongle, Bechesef Male, comme s'il y avait un Kesef pas Male. Enfin, maintenant, nous savons qu'il y a deux sortes de kesef. Un kesef malin, un kesef comme ça. Et, Betochechem la Chozer Kaber, parmi vous, en héritage de sépulture. Et Ephron Yoshev Betor Benechet. Or, Ephron se tenait parmi les enfants de Chet. Vayan Ephron, Achiti, et Ephron le Chitéen, répondit à Abraham, Beozne Benechet, aux oreilles des fils de Chet, les Cholbaesh à Ilolemor, et là encore ça s'ouvre, on est maintenant dans le tribunal, devant tous les passants, devant la porte de la ville, c'est-à-dire le tribunal, en disant Lo Adoni Shemae, non, Seigneur, écoute-moi. Asade Natatilar, le champ est à toi si tu veux, je te donne. Vers Mehara Sherbolechan et Tatia, et la caverne qu'il y a dans le champ, je te la donne. Les Enebene Ami, aux yeux des enfants de mon peuple, Netatia l'arc et Bormetrach, les données en terre ton. Enterre ton mort. Abraham n'est pas d'accord. Vaishtachou, on ne sait pas encore pourquoi il n'est pas d'accord, mais je vais y revenir. Vaishtachou Abraham, l'Ifner Amaret, et Abraham, Echomrim, se prosterna devant le peuple de la terre. Vaidaber el Ephron Beozne Amaret, et il parla à Ephron aux oreilles du peuple de la terre, les morts, pour dire Ach imatalou shemaen. Si toi tu veux bien m'écouter, Natati que c'est façadé. Moi, je te donne, littéralement, c'est écrit, je t'ai déjà donné. C'est-à-dire, si je te promets, tu l'as déjà. Les tzadikim, il leur suffit de dire, c'est à toi pour que ce soit déjà fait. Alors, je t'ai donné l'argent du champ, Karmimeni, prends-le de moi. Tout ce qu'il lui demande, c'est de prendre l'argent. Vek veret meti shama. Et je pourrai enterrer mon mort là-bas. Vayaran, Ephron, Imabraham, et Abraham, les morlots. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, Adoni, shemaen. Seigneur, écoute-moi, Eretz alba meot shekel kesef, une terre de 400 shekels d'argent. Je ne sais pas si c'est intentionnel qu'il a dit un shekel d'argent, parce que le shekel, vous voyez, toute la terre d'Israël, ça vaut 400 shekels. C'est les droits d'acquisition de la terre. Beni ou ben chamaï, entre moi et entre toi, qu'est-ce que c'est? Vet metecha kevo, enterre ton mort. On ne comprend absolument rien dans ce dialogue. Sinon, les commentateurs occidentaux, ils verraient tout de suite une scène de marchandage entre deux marchands de tapis orientaux. Quelque chose comme ça. Vaishma Abraham et Ephron, Abraham comprit ce que Ephron voulait. Vaishkol Abraham et Ephron et Takes. Et il pesa. Et vous savez que Shekel, ça vient de l'Ishkol. Pesé. L'argent, Asher Diver Beozne Benechet, dont il avait parlé aux oreilles des enfants de Chet. Abba me aussi quelque chose envers la sahère, et 400 cycles d'argent, comment dire, acceptable par les marchands, je ne sais pas comment dire ça, envers la sahère. Hein? D'accord. Enfin, vous avez compris l'idée, ça veut dire de l'argent monnayable. Bayakoms de Ephron achète dans Marpella, alors devint le champ de Ephron qui se trouvait dans la caverne. Mais attention, ici il y a une nuance. D'abord, la caverne est dans le champ. Maintenant, on s'aperçoit que le champ est dans la caverne. Asher Rishne Mamré, qui se trouve devant Mamré, Asadé Vermehava Asherbo, vous voyez, le champ et la caverne qu'il y avait dedans, on dirait que la Torah se moque de nous. Elle nous dit d'abord, bon, vous avez compris. Vechol Aetz Asher Basadé, tout arbre qu'il y avait dans ce champ, Asher Bechol Gevulo Savi, dans toute sa frontière autour, et la frontière autour de la caverne de Marpella, c'est la frontière d'Eretz Israël. Vous avez compris, c'est l'acquisition d'Eretz Israël qui se produit là. Les Abraham, les Mikna, les Eden Benechet, Abraham en acquisition, retenez, vous retiendrez ce mot, Mikna, acquisition, les Eden Benechet, aux yeux des enfants de Chet, Bechol Baesh Ahario, devant tous ceux qui venaient à la porte de la ville, devant le tribunal. Et après cela, j'ajoute seulement, après cette procédure, disons, Kavar Abraham et Sarah Ishto, Abraham a enterré Sarah, sa femme, elle met à la Tzlea Marpella, à la caverne du champ double, alors maintenant que c'est le champ qui est double, donc, Alpen et Mamré, devant Mamré, Hi Hebron, c'est-à-dire Hebron, Beretz Knaan, dans le pays de Knaan, Vayakom Asadé, et le champ devint vers Mehara Sherbo et la caverne qui y avait dans le champ, le Abraham, pour Abraham, la Huzat Kever, un héritage de sépulture, mais Benechet, de la part des enfants de Ré. Alors, je vais vous donner la réponse à deux niveaux. En reprenant d'abord l'enseignement de Ibn Ezra. Et ensuite, on essaiera de comprendre quelle est l'allure formelle de cette tractation, qu'est-ce qui se passe dans le récit, en tant que récit. Mais d'abord, l'événement lui-même. Alors, voilà que le commentaire, se basant sur des midrashim très anciens, en fait, anciens, c'est un mot, tous les midrashim sont anciens, peu connus, disons, nous dit ceci. Dans cette caverne étaient enterrés Adam et Chava. Et dans cette caverne étaient enterrés le premier homme et la première femme. Et c'est pourquoi on l'appelle la caverne double, c'est la caverne du couple. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette ville va s'appeler Hebron. Mais elle va s'appeler aussi Kiryat Arba, il habite tout de suite, parce que seront enterrés quatre couples. Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Et c'est pourquoi elle s'appelle Kiryat Arba. Autre opinion, habiter dans cette ville, quatre géants dont on nous donne les noms, d'une race dont on trouve dans les très très anciennes traditions de toutes les traditions d'ailleurs, qu'il a existé sur Terre une race de géants, une trace dans un passage de la Genèse plus ancien, plus avant, les Néphilim, qu'on les appelait. Et vous savez, toute cette mythologie qui nous est arrivée, très, très mythologisée, mythifiée, si j'ose dire, mais il y a sans doute un fond historique derrière que, effectivement, ont habité des grands, des races. Vous avez peut-être lu ou entendu parler de ce qui se passait dans les vestiges de l'île de Pâques. Bon, alors je vous renvoie à ces choses-là. Et là, il y a la preuve évidente qu'il a existé une race de géants sur Terre. Nous avons des traces dans nos midrashim et dans des... La seule explication que j'ai retenue dans mes études, qui est une allure un peu scientifique, et d'ailleurs un peu inquiétante, d'ailleurs, c'est que, explique ça avec le gigantisme d'ailleurs des espèces animales qui ont disparu. C'est un peu corollaire. Et je ne pourrais pas vous dire d'ailleurs d'où vient cette théorie, mais je pense d'un cercle d'études de l'université américaine de Princeton, là, je crois, comment on prononce ça,
Princeton,
ouais. Et qui dit ceci, il y a des phases lunaires dans le sens que la Lune et la Terre sont plus ou moins rapprochées, plus ou moins éloignées. Et quand la Lune se rapproche plus de la Terre, la force d'attraction de la Lune devient plus grande et les races vivantes, enfin les êtres vivants, ont tendance au gigantisme. Vous avez suivi ça, hein? Et que ça correspond d'ailleurs aussi à des périodes glaciaires, enfin il y a des rythmes de ce genre qui ont disparu de la mémoire des hommes, mais que si les événements recommençaient, eh bien, ils recommenceraient aussi. Alors, on saurait de quoi il s'agit vraiment, mais on peut comprendre qu'une force comme l'attraction lunaire qui joue sur les marées, lorsqu'elle est beaucoup plus grande, eh bien, puisse avoir ce genre de résultat. C'est-à-dire une sorte de gigantisme des espèces vivantes, y compris l'homme. Bon, je referme la parenthèse. Je n'ai aucune assurance à vous donner sur le fondement de ce type d'explication, mais il semble, d'après d'autres savants, que nous risquons d'entrer dans une phase de ce type. Il y a des problèmes avec la Lune. En tout cas, pour revenir à notre texte, vous voyez tout de suite le Midrash sur lequel se base Ibn Ezra prend une dimension tout à fait autre. C'est-à-dire, c'est pas n'importe où cette scène, cette discussion se passe. C'est à l'endroit qui est le berceau de l'humanité. C'est à l'endroit où Adam et Chava sont enterrés, c'est là qu'Abraham et Sarah vont prendre le relais. Est-ce que c'est clair? Oui, vous avez déjà la clé du problème. Abraham sait où il faut que Sarah soit enterrée. Parce qu'il vient prendre le relais d'un gardiennage qui se faisait jusque-là par Ephron ben Sohar. Ephron ben Sohar avait ce mérite-là d'être le gardien du cimetière de l'humanité, et où il y avait deux genres de sépultures dans son caveau à lui. Tous les autres caveaux à Hebron, c'est les caveaux de chaque grande famille. Le caveau de Ephron ben Sohar, je vais essayer de l'identifier tout à l'heure, d'après un enseignement du l'élève, du disciple du Gaon de Vilna, le Rav Chaim de Volozhin, qui, lui, avait un caveau particulier. Il y avait dans la Mehara la lignée de Adam jusqu'à lui qui passait dans sa famille. Et autour de la Mehara, le champ que j'ai appelé tout à l'heure de cimetière de la fosse publique des étrangers. Or, Abraham, dans son identité, va prendre le relais. Il va prendre le relais des engendrements depuis le premier homme qui mèneront au temps messianique, et en même temps, il est le principe des convertis à l'identité d'Israël, c'est-à-dire les étrangers. Et là, je reviens au mot « guerre » qui signifie « converti ». Vous suivez ? Donc, je veux dire, nous avons la clé là que, premièrement, pourquoi Abraham veut ce caveau-là et pas un autre ? Parce que c'est le caveau d'Ephron ben Sohar, et je vais l'expliquer au tableau, parce que c'est celui-là qui conserve son histoire propre, sa fonction dans l'histoire, sa mission dans l'histoire. Abraham va prendre le relais du premier homme. Donc, il faut intéresser à là où Hava est enterré. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Petite parenthèse, quand j'ai énuméré qui est enterré dans le Raven de Marpella, je vais le reprendre pour vous montrer, essayer de mettre en évidence le caractère grotesque de la prétention des descendants d'Ismaël sur le caveau des patriarches d'Israël. Alors bien sûr, Abraham est enterré là-bas, ils sont d'accord. C'est très important qu'ils soient d'accord, que c'est Abraham et Sarah qui sont enterrés là. Et puis après, qui y a ? Il y a Yitzhak et Rebecca. Évidemment, ça ne concerne plus Ishmaël et les Arabes. Vous y êtes ? Et ils le considèrent comme des caveaux aussi sains que ceux d'Abraham. De la même manière, je ne sais pas si vous savez, même le tombeau de Rachel, qui n'est pas dans la caverne de Marpella, est considéré par les musulmans comme un tombeau d'une de leurs saintes. Puisque en fait, avec le postulat qu'Israël disqualifié a laissé le relais à l'islam, ils considèrent que l'islam est l'héritier authentique des Hébreux. Ça passe par là, pour eux. Les chrétiens disent la même chose de l'autre côté. Hein, et puis nous sommes au milieu, comme vous savez. Et là, Yitzhak et Rivka, et évidemment, il ne peut plus s'agir de l'appartenance à l'héritage d'Ishmaël. D'autant plus qu'en plus, il y a Jacob et Léa. Et Jacob et Léa, alors ça, c'est vraiment les ancêtres du peuple juif directement. Je pense que c'est clair. Petite parenthèse dans la parenthèse. Pourquoi Jacob et Léa et pas Jacob et Rachel ? Alors ça, nous étudierons une autre fois, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je signale le problème. C'est un problème important. C'est Jacob et Léa, et pas Jacob et Rachel.
Pourquoi
est-ce
qu'on trouve le terme de Kiryat Arba à ce moment-là, alors que le couple n'est pas ?
Oui, les couples ne sont pas, mais vous savez très bien qu'il y a une dimension d'éternité dans le dévoilement de la Torah. Dans tous les cas, Hebron, c'est Kiryat Arba. Tant que les quatre couples n'y sont pas, alors c'est Kiryat Arba des quatre géants. Vous vous rappelez que... mais dès que les couples y sont, alors c'est plus des quatre géants, c'est des quatre couples. Mais dans tous les cas, formellement, quel que soit le contenu, Hebron, formellement, ça s'appelait Kiryat Arba. Hebron, d'abord, ça veut dire la cité double. Vous voyez, dans la racine de Hebron. Okay. Et puis, si c'est déjà double, ça va de soi qu'il y en a quatre. Vous comprenez ? Donc, Hebron doit s'appeler Kiryat Arba. On pourrait étudier cela, ce principe que la nomination des réalités absolues ne dépend pas a priori des contenus historiques. Pessah, c'est Pâques avec les matzot et le maror avant même la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, Pessah commémore la sortie d'Égypte. Mais a priori, Pessah, c'est Pessah. Le 14 Nissan, je pense que ça suffit, Beremes. Hanouka, c'est Hanouka depuis le premier homme, mais on ne savait pas qu'est-ce que ça devait commémorer, ce Hanouka-là. Au temps des Maccabées, on a su. Alors à partir des Maccabées, Hanouka, c'est ça. Vous suivez ? Ma ? Et le Matzmaout, bien sûr. Et pas seulement Yom HaTzmaout, le jour de l'arrivée du Messie. C'est déjà le jour de l'arrivée du Messie, bien qu'il ne soit pas déjà arrivé. Alors, puisqu'il n'est pas encore arrivé, on ne commémore pas ce jour-là, mais on le connaît. Ce jour-là, vous verrez, on vous donnera la référence. Je ne sais pas si ça sera moi, mais quelqu'un vous dira. Et bien alors, c'est écrit là que c'était ce jour-là. Donc,